Les cours du Collège de France, épigraphie et histoire des cités grecques, de Nick Knopfler.
Mesdames et messieurs, c'est une espèce de fascination qu'a exercée dès l'Antiquité, auprès de certains intellectuels, la personne et l'œuvre de l'Athénien Démétrios, du dème de Phalère. Un philosophe au pouvoir, dirigeant pendant 10 ans la plus prestigieuse des cités grecques, lui assurant la paix, lui imposant des réformes nécessaires, poursuivant son œuvre au-delà de cette période, en exil, certes, mais à Alexandrie, la plus illustre des nouvelles métropoles, y jouant le rôle de conseiller culturel auprès du premier des Ptolémées, inspirant l'idée du musée et de la bibliothèque, participant même, selon une tradition certes un peu plus tardive, à la grande aventure de la traduction en grec des livres saints du judaïsme, la fameuse Septante. Cicéron voyait en lui un homme aussi autorisé sur le plan de la connaissance qu'expérimenté dans le gouvernement de la cité. Non solum eruditissimus, sed etiam peritissimus, dit-il en substance au livre 2 de son traité des lois, un texte que vous avez sous les yeux, chapitre 66. Bref, un modèle d'humanitas pour qui cherche à exceller comme lui-même dans la vie de l'esprit et dans l'activité politique. Les historiens de la basse époque hellénistique n'étaient pas d'un avis différent. Pour Diodore de Sicile, Démétrios a su exercer le pouvoir de manière pacifique, eirenikos, se conduisant avec humanité, philanthropos, à l'égard de ses concitoyens. Strabon, le grand géographe, relève que cet homme appelé à gouverner Athènes non seulement ne supprima pas la démocratie, il répond là à des objections, mais au contraire la redressa, la manda, c'est au livre 9, chapitre 1, 20, oumonon ou catelusse ten democratian al epenortose, epanortosis, redressement. Certes, quelques auteurs de l'époque impériale avancée, et parmi les plus cancaniers, Athénée et Diogène Laërce, l'historien des philosophes, se sont plus à recueillir des anecdotes qui ne le montrent pas toujours à son avantage dans la vie privée et même dans sa vie publique. Mais cela n'a manifestement pas suffi à ternir le portrait que Démétrios, tout le premier, s'était employé à brosser de lui-même dans les ouvrages, hélas perdus, il y en avait beaucoup, où il défendait son action pendant la Dekaitia, ses 10 ans de gouvernement, un double quinquennat en quelque sorte, essayant sans doute de répondre aux attaques dont il fut l'objet après sa chute en 307 de la part de bien des Athéniens. Nul doute en effet qu'il eut de solides adversaires parmi la classe politique, à commencer par le propre neveu de Démosthène, Démocharès de Leuconoé, le grand démocrate, qui voyait en Démétrios un tyran à la solde de l'occupant. Et un écho de cette tradition hostile se trouve encore chez Pausanias, livre 1, 24, avec le terme même de « tyrannos ». En revanche, dans le décret qu'on commentera tout à l'heure, la présentation de Démétrios est beaucoup plus favorable. Il y a au moins un historien parmi les contemporains pour faire un bilan très mitigé de son autoritaire présidence, Douris de Samos, proche pourtant de Démétrios, puisqu'ils étaient l'un et l'autre disciples d'Aristote et surtout amis de Théophraste, chef de l'école péripatéticienne, depuis 322, à qui cet auteur, à qui l'on doit non seulement les célèbres caractères, qui sont une série de portraits ou de types, dont la création date assez exactement des années 325-315. Mais aussi, vous le savez, l'auteur d'admirables ouvrages de botanique, on reviendra sur cette grande figure de l'Athènes hellénistique. C'est que les multiples talents de Démétrios ne pouvaient pas faire oublier que toute sa carrière politique depuis 322 s'était construite à l'ombre de la Macédoine. Son arrivée au pouvoir en 317 n'avait-elle pas marqué la fin d'une éphémère période de restauration démocratique ? Et son départ en 307 ne fut-il pas salué comme le retour, précisément, à la démocratie ? Comment alors concilier tout cela avec l'éloge appuyé qui lui a été décerné, parfois de son vivant, comme dans cette inscription d'Udème d'Aixonae, sur laquelle on reviendra, et surtout par la postérité. Et d'abord, comment comprendre, chose tout de même extraordinaire, que cet homme ait pu, une décennie durant, se maintenir à la tête d'une cité qui, depuis deux siècles, avait pour principe fondamental de renouveler chaque année ses autorités politiques au plus haut niveau. Je ne veux pas pour autant reprendre le détail des circonstances connues essentiellement par Diodore au livre 18 et bien analysées par Habicht et d'autres, qui fragilisèrent dès le début le régime démocratique installé à Athènes au printemps 318, quand, on s'en souvient peut-être, le nouveau régent de la Macédoine, Polyperchon, s'employa à éliminer les régimes oligarchiques, naguère imposés aux cités, par le régent précédent, Antipatros. Mais le fils de ce dernier, Cassandre, n'était pas homme à se laisser faire. Dans le jeu très serré qu'il mena avec son rival pour rétablir sa domination sur Athènes, il conservait en main une carte très importante, la garnison macédonienne du Pirée, dont le commandant Nicanor lui restait fidèle en dépit des demandes d'évacuation qui lui étaient adressées par le nouveau gouvernement athénien, sans parler des ordres comminatoires qui lui venaient de Pella ou l'assise encombrante reine-mère, la mère d'Alexandre le Grand, Olympias, farouchement opposé à Cassandre, comme déjà Antipatros, menaçait donc le chef de la garnison macédonienne. La situation des Athéniens était ainsi peu confortable. Eux qui avaient perdu le contrôle de leur port, cela ne les empêcha pas de fêter le retour de la liberté en célébrant avec éclat les grandes panathénées quadriennales, pas été fêtées depuis 322 et qui tombaient précisément, très opportunément, dans l'été 318. D'autre part, comme nous l'enseigne une des rares inscriptions bien conservées de ce bref intermède démocratique, à savoir le beau décret pour Euphron de Sicyone, les Athéniens eurent à cœur de remplacer les stèles qui avaient été délibérément détruites sous l'oligarchie du fait qu'elles honoraient des adversaires du pouvoir macédonien. En même temps, ils renouvelaient les privilèges octroyés à leurs anciens bienfaiteurs, fussent-ils décédés comme précisément Euphron. Mais la conjoncture politico-militaire restait lourde de menaces, en dépit de la présence sous les murs d'Athènes d'une armée conduite par Alexandre, Alexandros, un autre, le propre fils de Polyperchon. Car Polyperchon lui-même peinait à faire triompher sa cause dans le Péloponnèse, renverser les oligarchies, tandis que son adversaire Cassandre, lui, nouait une vaste coalition en Asie mineure avec les autres diadoques, les successeurs d'Alexandre. Cette Asie mineure qui est là le théâtre de gigantesques affrontements dans lesquels je ne puis pas entrer ici. Fort de ses succès, le fils d'Antipatros put revenir en Grèce dès 318, depuis l'Asie mineure, et aussitôt, il commence à investir l'Attique, à la fois par mer et sur terre, en partant des îles voisines. Il fallut donc, pour les Athéniens, entrer en négociation avec le commandant du Pirée, l'homme de Cassandre, Nicanor, et c'est précisément Démétrios de Phalère, autrefois partisan d'Antipatros, justement, ami de Phocion. Il avait d'ailleurs échappé de justesse à la mort lors du coup d'État démocratique du printemps 318. C'est donc ce philosophe qui fut envoyé comme ambassadeur pour négocier au mieux un nouveau traité avec le maître de l'heure. Cassandre se montra relativement libéral vis-à-vis des Athéniens. Il maintint certes jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à la fin de la guerre, la garnison de Munichi, dans le port du Pirée, bien placée là, à l'entrée du port fermé, ici, mais sans empêcher la réunification de la ville avec son port, ce qui était essentiel, son port qui abritait toujours, tout de même, une petite flotte de guerre, comme avec d'ailleurs le reste du territoire jusqu'aux forteresses placées aux frontières. Tout en proclamant l'autonomie de la cité, Cassandre lui imposa à nouveau, on peut dire, un régime censitaire, mais moins rigoureux que celui d'Antipatros, puisque le seuil se situait en fait très bas, à 1000 drachmes de fortune. Enfin, surtout, il désignait un Athénien pour être l'épimélète, le gouverneur, épimélètes tespoléos, sous son protectorat, en ayant la délicatesse de laisser aux Athéniens le soin de l'élire démocratiquement dans cette fonction. Aussi, le brave Diodore de Sicile, livre 18, chapitre 74, vous l'avez sous les yeux, peut-il écrire sans sourciller que c'est Démétrios de Phalère qui fut élu, Kai erete Démétrios o Phalereuse. De fait, le personnage avait le double atout d'être un respectable citoyen athénien, encore que sous le coup d'une très récente condamnation à mort par contumace, et un honorable disciple du grand Aristote, éducateur autrefois du défunt roi Alexandre. Bref, un partenaire de toute confiance aux yeux de Cassandre. Ce récit de l'historien Diodore pose le problème de savoir quel fut le statut exact de Démétrios dans la République. Et d'abord, le nom même de la magistrature qu'il exerça. Ce titre d'épimélète est-il une appellation officielle ou simplement une façon aussi vague que commode de ne pas définir plus précisément un pouvoir d'exception? Le témoignage des documents officiels devrait, en principe, permettre de trancher la question. Mais les inscriptions publiques, datant sûrement de la période 317-307, ne sont pas très nombreuses, bien moins nombreuses que celles de la période démocratique suivante, on le verra. Et ça ne saurait être fortuit. Et toutes ces inscriptions, bien sûr, ne nomment pas Démétrios. L'une d'elles a cependant paru le faire, et même avec des indications très précieuses. Aussi a-t-elle joué un rôle considérable dans la question qui nous occupe. C'est une grande base de statues trouvée dans le sanctuaire d'Eleusis dès avant les fouilles. On la connaît depuis très longtemps. Les soldats placés en garnison dans les forteresses honorent le stratège Démétrios, fils de Phanostratos, d'Udème de Phalère, qui avait rempli cette charge à trois reprises, en jugé d'après les couronnes, et qui avait d'abord été hipparque, c'est-à-dire chef de la cavalerie. Trois forteresses qui sont celles d'Eleusis même, de Panacton et de Philée. Pour la plupart des épigraphistes, cela impliquait que l'inscription devait dater au plus tôt des alentours de 314, Démétrios de Phalère n'ayant pu occuper un poste de stratège trois fois avant le tournant de 317. On supposait dès lors que tel faution, il avait dû être reconduit dans cette haute fonction politico-militaire d'année en année. Stratégos, tel devait donc avoir été le titre officiel, titre véritable, porté 10 ans durant par le philosophe président. Mais pour certains, au contraire, c'est au début de sa carrière, avant 317, que Démétrios avait dû être stratège. Or, on sait aujourd'hui que ces deux variantes sont également ruineuses. En effet, comme l'a montré l'Américain Stephen Tracy, il y a une quinzaine d'années, le Démétrios de la statue d'Éleusis, œuvre du sculpteur Sosithéos, qui est malheureusement inconnu par ailleurs, est en réalité son petit-fils, exactement homonyme, qui fut lui actif au milieu du IIIe siècle. Ce qui aurait pu suffire à le démontrer, c'est qu'il n'existait pas encore, à la fin du IVe siècle, une circonscription militaire englobant, autour d'Éleusis, les deux forteresses de Panacton et de Philée. Ici, cette circonscription. Elle n'existait pas à l'époque de Démétrios Poliorcète. Elle ne date, on le verra, que des années 280. D'autre part, et c'est avec cela que Tracy a donné le coup de grâce à l'identification traditionnelle, l'inscription d'Éleusis est l'œuvre d'un lapicide bien plus tardif, vers 240 précisément. Plus question donc de s'appuyer sur ce document pour établir le titre officiel du disciple d'Aristote. Depuis longtemps, on aurait dû douter, à vrai dire, que Démétrios eût jamais été stratège. Non pas qu'un intellectuel grec ne pût revêtir une telle magistrature. Le cas de Sophocle prouve le contraire, et il n'est pas le seul. Mais parce que nos sources ne le montrent pratiquement jamais dans une fonction militaire, ne serait-ce que pour se gausser de ce philosophe en armes. Le haut commandement militaire, dans l'Athènes de ces années-là, est exercé, de fait, par le chef de la garnison macédonienne du Pirée. Et Démétrios paraît s'être bien gardé d'inférer avec le représentant direct de Cassandre quand il s'agissait de défendre la cité contre les rivaux de ce roi ou quasi-roi. Il est vrai qu'en 307, lors de l'attaque victorieuse du prince Démétrios Poliorcète, notre Démétrios de Phaleur aurait fonctionné comme stratège, stratégone, selon Polyen, le tardif auteur des Stratagèmes, livre 4-7, qui, en lui-même, n'a guère d'autorité, surtout en matière d'institution. Ce qui est sûr, c'est que Démétrios de Phaleur fut un piètre commandant, s'il l'a été réellement, dont le Poliorcète ne fit qu'une bouchée. La magistrature revêtue par Démétrios de Phaleur durant son décennat devait donc avoir un caractère civil. De fait, on sait qu'il fut archonte éponyme pour l'année 309-8, mais seulement pour cette année. Et on lit avec intérêt chez Diogen Laërce, 5-76, qu'après la chute du personnage, tenu alors pour un tyran illégitime, l'année en question reçut la mention anomia, illégalité, ou plutôt, je pense, techniquement, anarchia, sans archonte, ce qui était une façon de faire disparaître son nom pour toujours. C'est d'ailleurs cette damnatio memoriae, comme disent les érudits, qui explique en partie que l'on ait si peu d'inscriptions concernant Démétrios, et qu'en particulier soit perdue la plupart des monuments dressés en son honneur. Il y en avait pourtant un bon nombre, plusieurs centaines, disaient ses biographes, et pratiquement toutes ses effigies furent abattues après 307. Le bronze étant récupéré pour la fabrication d'objets triviaux, tels des pots de chambre, disent certains biographes. Seul aurait été épargnée la statue qui se trouvait sur l'Acropole, parce que, ajouterons-nous, elle était une consécration à la déesse Polyade, bien sûr, et par là, intouchable. Mais l'un de ces monuments est néanmoins parvenu jusqu'à nous. En effet, on l'a découvert en 1968, dans la campagne attique, un socle en morceaux, portant l'inscription que voici, vous l'avez sous les yeux, Sphetioi, Démétrion, Phanostratou, Phalerea, Anetekan, Antignotos, Epoiesé, la signature de l'artiste. Donc, les gens du dème de Sphetos, au pied sud de Limète, avaient érigé une effigie de Démétrios. Malgré le doute qui s'est installé, y compris, chose remarquable, chez Habich, dans sa synthèse, dans une monographie toute récente, il me paraît clair que le personnage honoré ici est notre Démétrios et non pas son petit-fils, le personnage qui était donc honoré par la base d'Eleusis. Fait seul que le personnage ne porte aucun titre et témoigne peut-être de sa grande notoriété, justement. Et la forme allongée du socle n'interdit pas non plus, bien au contraire, de songer à une statue équestre. Or, précisément, ce sont des eikones ephippou qui le plus souvent représentaient Démétrios de Phalère au témoignage de nos sources littéraires, de Diogène Laërce en particulier. Il est certes permis de s'étonner d'un tel honneur pour Démétrios, dans la mesure où la statue équestre était réservée normalement à des officiers supérieurs et surtout à des rois ou roitelets, comme le montre à Athènes même la mention d'un tel monument dans le décret voté en 314-13, donc sous le gouvernement de Démétrios, pour le satrape de Carie Asandros, un partisan de Cassandre, bien sûr, à la suite d'une expédition faite à l'aide des navires fournis par cet Asandros, peut-être dans les Cyclades. Comment, évidemment, vous le voyez ici, il est dit, il est octroyé au personnage une statue, icona, de bronze, qui est dite F. Ipou en Agora, un honneur très considérable, cette statue équestre au cœur de la cité. Comment expliquer alors que Démétrios, qui était tout sauf un grand capitaine, fut statufié de cette manière, non seulement à Sphétos, mais probablement dans la plupart des dèmes de l'Attique et à Athènes même. C'est, à mon avis, que le système des honneurs était alors en pleine évolution, même mutation, en cette fin du IVe siècle. L'orateur Démade, on s'en souvient peut-être, avait été le premier civil à partager un privilège réservé jusque-là au stratège vainqueur, en ayant une simple statue, non pas une statue équestre. On peut, dès lors, me semble-t-il, admettre une nouvelle avancée, 20 ans plus tard, en tant que détenteur, ou du moins représentant de l'autorité suprême, Démétrios s'identifie en quelque sorte à un prince victorieux. Reste alors une inscription qui a été beaucoup discutée, car il est certain que Démétrios y apparaissait avec son titre. Il s'agit de la stèle illustrée au début de la leçon, dont je donne ici la transcription. Il s'agit d'un décret où les gens du dème d'Aixonae, dont on parlait la semaine dernière au séminaire, font état des services rendus par ce personnage en l'an 317 ou peu après, quand la ville, dit le décret, c'est un témoignage intéressant, était coupée du Pirée en raison de la guerre, c'est un polémon. Le mérite de Démétrios ayant été d'obtenir, grâce à une ambassade, la réunification des deux parties en un tout, eisto auto. Eisto auto, on retrouvera plus tard cette expression remarquable. Et un traité de paix qu'il obtient également pour la cité. Puis le décret des Aixonéens faisait mention de l'élection, ligne 11, du personnage à une magistrature dans l'exercice de laquelle il eut à cœur de proposer des lois aussi belles qu'avantageuses. Nomus et teken, on le voit à la fin, partie conservée, calus kai sumferondas. Or, par une vraie malchance, le titre même de la magistrature, au début de la ligne 11, n'est pas conservé. On a restitué, comme ici, le plus souvent, kai epimeletes aireteis, dans le sillage de la phrase de Diodore citée plus haut. D'autres érudits, en grand nombre, depuis la fin du XIXe siècle, ont proposé, parce que le titre peut aussi convenir, pouvait sembler convenir, le titre de stratégos, en croyant justement pouvoir s'appuyer sur l'inscription d'Eleusis, qu'on a vu tout à l'heure, mais on vient aussi de constater que ce document ne peut plus être allégué à l'appui de cette restitution. Faut-il alors s'en tenir à Épiméletès ? Cela est peu satisfaisant. Cela est pour une raison qui n'apparaît pas ici, c'est que le mot Épiméletès a une lettre de trop pour entrer dans cette lacune du point de vue de ce qu'on appelle le stoïkédon. C'est déjà une objection, disons, de forme ou de graphie. Mais surtout, on attendrait, après Épiméletès, on attendrait un génitif qui définisse le titre, comme on a Épiméletès ton hieron, Épiméletès ton crénon des fontaines, Épiméletès ton teikon des murs, ou alors, justement, Thespoléos de la cité. Or, il n'y a alors absolument pas la place pour une précision de cette sorte. Aussi, me semble-t-il, probable, sinon assuré, que la bonne solution est celle qu'avait proposée, mais qui a eu peu de succès, l'épigraphiste Sterling Doe, dans un article déjà ancien de 1943, en optant pour le titre Nomothétès. Nomothétès, nomothète, magistrature existant depuis longtemps, mais exercée jusqu'en 322 sous forme collégiale. L'innovation en 317 aurait été de créer un nomothète unique ayant les pleins pouvoirs pour établir une nouvelle constitution, on dirait en latin ad rem publicam constituendam. De fait, c'est en tant que législateur que Démétrios est mentionné dans un document ancien, la chronique de Paros au IIIe siècle déjà, et qu'il apparaît ensuite, le plus souvent, chez Cicéron, dans un passage aussi de sa République, livre 2, chapitre 1, qui voit en lui le dernier législateur athénien, après Solon et Clisthène, vous voyez qu'il est en fort bonne compagnie, un Démétrios venu comme au chevet d'une cité déjà souffrante et abattue, exsanguis, et Iakens. De fait, tout comme son maître Théophraste, Démétrios avait rédigé un traité des lois dans le droit fil de la grande tradition platonicienne. Et c'est en lui restituant ce titre officiel de nomothétès que l'on comprend tout le sel attique de l'invective de l'historien Douris reprochant à son condisciple Démétrios de mener une vie déréglée, indigne d'un nomothète. Anomothétos bios. Parmi toutes les réformes attribuées à Démétrios, celle qui apparaît à la fois comme la moins sujette à caution et la plus aisée à saisir concrètement est la loi somptuaire instaurant des restrictions dans la célébration des funérailles et la construction des tombeaux. C'est à Cicéron encore que l'on doit d'en connaître assez précisément la teneur. On a vu quelle admiration Démétrios de Phalère inspirait à l'orateur et penseur romain, qui avait certainement lu plusieurs de ses ouvrages. Dans son De Legibus, traité des lois 2.66, il fait état d'un ouvrage où Démétrios devait légitimer la loi qu'il avait promulguée en matière d'usage funéraire par un aperçu de la législation antérieure, en rappelant les dispositions prises notamment par Solon, de même que les réflexions de Platon, bon, qui étaient des sont théoriques, dans son propre traité des lois, vers 350 avant Jésus-Christ, une génération plus tôt. Et Cicéron alors de citer assez longuement Démétrios en reproduisant, peut-être, ou en citant clairement l'aspect le plus important, le plus visible de sa réforme. Il fixa, en tout cas, une limitation pour les tombeaux neufs. Sepulchris autem novis finit modum, modus. Car il ne voulut pas que l'on plaçât sur le monceau de terre autre chose qu'une colonne haute de plus de 3 coudées, nisi columelam tribus cubitis nec altiorem, ou alors une simple table ou une vasque Ce sont les mots « aut mensam, aut labellum ». Et il avait nommé un fonctionnaire spécialement chargé de veiller à l'exécution de ces mesures, et hic procurationi, procuratio, certum magistratum praefecerat. Il avait mis un magistrat spécial. Ce beau texte inspire confiance par sa précision, et il faut noter que Cicéron lui-même, lors de son séjour à Athènes en 79 avant Jésus-Christ, et en traversant le cimetière du céramique pour se rendre à pied en pèlerinage à l'Académie de Platon, encore au-delà, avait dû observer que les grands monuments funéraires appartenaient à une époque déjà bien ancienne, antérieure précisément à la législation de Démétrios de Phalère. Il est toutefois remarquable qu'une réforme aussi importante, modifiant non seulement des habitudes très largement répandues dans la société athénienne de l'époque classique, mais appelée à terme à modifier le paysage même, celui des abords de la ville et des dèmes les plus populeux, que cette loi, disais-je, n'est par ailleurs laissé aucune trace dans les textes et littéraires et documentaires grecs. Rien ne montre mieux, donc, combien nos sources sont lacunaires et fortuites, d'où le risque constant de tirer de leur silence des conclusions hasardeuses. En l'occurrence, le témoignage isolé de Cicéron a trouvé, on le sait, une ample confirmation, alors, sur le plan archéologique, de manière d'abord négative, par le constat que la fin du IVe siècle marquait effectivement la disparition des monuments funéraires les plus dispendieux, constitués souvent, comme ici, d'une terrasse, d'un grand socle sur lequel venaient se placer des stèles plus ou moins ornées, de grandes stèles à Anthémion ou des Naïskoï avec plusieurs personnages. Au terme de l'évolution, vers 330-320, selon la chronologie la plus probable, ces monuments avaient pu prendre des dimensions réellement colossales. Il en va ainsi d'un tombeau de 7 mètres de haut, élevé en bordure des longs murs, donc au Pirée, par un négociant étranger, un métèque, au sens technique du terme, originaire d'Istros, sur les bouches du Danube, Nikératos, fils de Polyxénos et son propre fils. Un nouveau riche, d'une certaine manière, qui imitait là, sans trop de vergogne, le monument princier du satrape Mausole, le fameux mausolée d'Halicarnasse. Plus frappant encore, à certains égards, est le fait que même dans l'Attique profonde, peut-on dire, loin de l'influence délétère du Pirée, pour parler comme Platon et Aristote, les nécropoles de Dème témoignent du même phénomène, comme le met en évidence les tombes du Dème de Ramnonte, aux frontières, qui ont été, ces monuments, magnifiquement publiés par Vassilis Petrakos, avec de nombreux enclos familiaux, aux proportions imposantes. Or, tous ces vestiges datent au plus tard des années 330-320. Mais la réforme de Démétrios a également entraîné la disparition des relativement sobres stèles attiques, comme celle-ci, une petite stèle à fronton et à rosette, même s'il arrive parfois d'y trouver des ajouts du IIIe siècle sur un monument familial, ça n'a rien de surprenant. Il est clair que la loi de Démétrios ne visait que les tombeaux déjà existants les sepulcra nova, tandis que les monuments existants ont pu subsister pendant très longtemps, voire jusqu'à à nos jours. Alors, que fit-on à la place? Essentiellement deux choses, soit des stèles fort sobres, de type qui s'était courant dans les pays voisins de la Béotie et de l'Eubée, stèles très nombreuses, mais qui n'ont pas encore été systématiquement étudiées pour Athènes, car l'ouvrage tout récent de Frank Hildebrandt, que vous avez une image sous les yeux, « Die Attischen Namenstelen », porte, comme l'indique un sous-titre, sur l'époque classique, 5e, 4e siècle, et non pas sur les stèles postérieures. Mais alors, le plus souvent, ce qui a remplacé les grands monuments, ce sont de très modestes colonnettes, vous avez ici un aperçu, qui sont les columellae de Cicéron, il les mentionne expressément, et qui passent pratiquement inaperçues au cimetière du céramique et ailleurs. La mise en relation des mesures prises par Démétrios avec la fin des grandes et des belles stèles à relief, des grands monuments funéraires, cette relation paraît à peu près incontestable. Mais le succès même de la loi peut surprendre. Le fait aussi qu'elle n'ait pas été abrogée par les adversaires de ce despote éclairé après sa destitution. C'est sans doute le signe qu'elle répondait aux vœux, aux besoins de la majorité des Athéniens, ou même peut-être que cette loi n'a fait que précipiter une tendance qui se serait amorcée déjà un peu plus tôt, en tout cas après la capitulation de 322, avec la réduction du corps civique, conséquence elle-même, on l'a vu, d'une certaine paupérisation de la population athénienne, de la ruine aussi des anciens clérouques, samiens et autres. Ce qui paraît sûr, c'est que la loi somptuaire dut avoir pour effet de ralentir l'activité d'un certain nombre d'artisans athéniens, carriers d'abord, tailleurs de pierre, bien entendu sculpteurs et peintres aussi, car tout cela était peint. Qu'est-il advenu de ces gens-là, mis subitement au chômage, victimes indirectes d'une subite raréfaction de la demande, chose que le législateur zélé n'avait peut-être pas suffisamment anticipée. Habicht a fait l'hypothèse, très séduisante, que bien des artisans parmi les meilleurs avaient pu prendre le chemin de l'exil pour s'employer dans telle ville nouvelle, ainsi pas trop loin d'Athènes, à Démétrias, au sud de la Thessalie, ville fondée par Démétrios, l'autre, Démétrios Polyorcète, en 294, et où, de fait, on a trouvé une masse de belles stèles funéraires, à vrai dire, surtout des stèles peintes. J'avais moi-même suggéré, dès 1977, que la présence à Chalcis, vers 300, d'un sculpteur athénien, Pheidippos Athénaios, auteur sur place de deux, voire de trois, statues de bronze, et père par ailleurs d'un sculpteur actif à Delphes au milieu du IIIe siècle, pouvait être mis en relation avec cet exode partiel, justement, des artistes athéniens. Et on pourrait citer également d'autres exemples qui, illustrant éventuellement cet exode. Il n'est donc pas interdit de penser la loi de Démétrios, si elle obligea les familles les plus opulentes à ménager leur patrimoine, c'était vraiment le but, un des buts, eut aussi quelques effets pervers pour l'économie athénienne. Dans son activité de législateur, Démétrios se préoccupa de réorganiser ou même de créer plusieurs magistratures. On vient de voir que d'après Cicéron, il avait chargé un magistrat particulier, Certus Magistratus, pour veiller à l'application de ces lois somptuaires. Sans doute s'agissait-il d'un ou de plusieurs épimélètes spécialisés, à moins, ça n'est pas exclu, que ce soin n'ait été confié aux magistrats appelés gunaikonomoi, les censeurs des femmes, qui sont encore inconnus à l'époque de la Constitution d'Athènes, écrite par Aristote ou ses disciples, vers 325. Magistrature donc nouvelle. Ce collège de gynéconomes est en tout cas, de l'avis assez général, une création imputable à Démétrios, s'inspirant sans doute du modèle fourni par le traité des lois de Platon, où on voit de tels gynéconomes dans l'état idéal athénien de Platon. Car ces gynéconomes ne veillaient pas seulement sur la moralité des femmes, en restreignant le luxe déployé par les Athéniennes les mieux dotées. Défense était faite, par exemple, aux grandes dames de se rendre en voiture et non pas à pied comme tout le monde, au mystère d'Éleusis. Mais il leur interdisait également toute action par trop ostentatoire lors des mariages ou des funérailles, précisément. Donc, ça pourrait entrer dans le même ensemble de lois sur les funérailles. On sait par ailleurs que Démétrios créa ou réforma complètement un collège formé de gardiens des lois, les nomophylaques, nomophylakes. Et selon un grammairien de l'époque impériale, qui s'appelle Pollux, c'était la transformation d'une magistrature existante déjà, mais sous un autre nom, il y a donc une métonomasie, comme dit ce grammairien, celle des NDK, des 11, responsables des prisons. Donc il y aurait une réforme du nom, et aussi sans doute quant aux compétences, car ces nomophylaques en avaient certainement de plus étendues. Ils auraient exercé, selon d'autres sources, une surveillance générale sur la conduite des citoyens et la légalité de toute proposition de décret ou de loi, se substituant en quelque sorte à l'ancienne aréopage. Et le chiffre même, le nombre même des membres de ce collège est sujet à caution. Certaines sources parlent de 7, donc c'est la preuve qu'on ne connaît pas bien encore cette institution et qu'il faudra attendre qu'une inscription nous instruise sur leur compte. Démétrios paraît s'être investi également dans la réforme de ce qu'on appelle les liturgies. Les liturgies, ces fonctions publiques qu'il convient de distinguer tout à fait des magistratures proprement dites, parce qu'elles n'impliquent normalement pas une activité permanente et surtout parce qu'elles ne peuvent, ou plutôt ne doivent, être assumées que par les citoyens les plus fortunés, qui viennent ainsi soulager les finances de la cité en exerçant une charge momentanée, précise et coûteuse. De manière significative, la constitution d'Athènes d'Aristote, encore une fois, n'en dit pas un mot, vers 325. Mais il aurait été très imprudent d'en conclure que ces liturgies n'existaient pas alors. Simplement, elles ne faisaient pas partie des magistratures de la Politéia. En réalité, les plus importantes remontent certainement au 5e siècle déjà, comme suffirait à le prouver une autre Athénaïon Politéia, celle que l'on attribue au vieil oligarque, comme on appelle sans beaucoup d'obligeance cet auteur qu'il me paraît préférable et plus objectif en tout cas de désigner sous le nom de pseudo-Xénophon. C'est en tout cas pas le Xénophon élève de Socrate qui est l'auteur de cet opuscule. C'est en fait un pamphlet où l'on trouve en effet une définition assez caustique de ce qu'est la corrigie, de ses principales liturgies, donc la corrigie, la gymnasiarchie et la triérarchie. Tout le monde, dit l'auteur, sait que ce sont aux riches qu'il incombe de payer les chœurs, les concours, les trières, mais que ce sont les classes populaires, les gens du démos, qui tirent bénéfice de ces liturgies. Il y a un jugement critique. Les orateurs du IVe siècle sont là pour attester combien ces charges pesaient lourdement sur les épaules d'une minorité du corps civique, au point de provoquer des contestations, de susciter, à l'époque de Démosthène précisément, des aménagements qui ne mirent pas en cause le principe même de la liturgie. Ce système continua donc à fonctionner, il y en a des preuves épigraphiques incontestables, durant toute la période de Lycurgue, jusque en 324-323. Mais survécut-il ce système à la capitulation de 322. Fut-il modifié en profondeur dans le sillage des changements constitutionnels imposés par le régent Antipatros? Est-ce seulement Démétrios de Phalère qui eut la volonté et les moyens de modifier tout cela? Ou, troisième possibilité, a-t-il fallu attendre le rétablissement du régime démocratique en 307, voire plus tard encore, pour qu'une réforme en profondeur fût adoptée? Le problème n'est pas simple et plus que jamais controversé. Aussi, la seule façon de pouvoir éventuellement aboutir à une solution, c'est de procéder à la manière du seul survivant des Horaces dans le combat contre les Curiaces. Mettre un peu d'espace entre les adversaires à affronter, autrement dit, ne pas envisager ensemble les trois problèmes à la fois, d'autant que rien n'assure a priori que toutes les liturgies firent l'objet d'une seule et même réforme. En fait, nous nous bornerons ici à examiner le cas de la gymnasiarchie et celui de la chorégie, car il ne semble pas que les sources actuellement disponibles permettent d'avancer sur la question des triérarques, donc de ces responsables de la construction et ensuite du commandement des trières. Il est probable, en fait, que l'institution des triérarques, qui était certainement encore très vivante jusqu'à la date des grandes batailles navales de 322, n'a pas disparu complètement après et survit au IIIe siècle, dans la mesure où subsiste aussi une petite flotte de guerre. Et il n'y a en tout cas nulle preuve que Démétrios de Phalère ait été pour quelque chose dans la disparition de cette saison progressive, peut-être, de cette institution, la triérarchie, qui remontait aux jours les plus glorieux de l'histoire navale d'Athènes. Pour la gymnasiarchie, en revanche, on dispose d'une mise au point toute récente de l'historienne de Turin, Enrica Culasso-Gastaldi, paru en langue italienne dans le volume que vous avez sous les yeux, volume collectif franco-suisse, L'huile et l'argent de 2009, dont je m'inspirerai largement, sans crainte de marcher sur ces plates-bandes, puisque c'est d'une toute autre question que cette collègue viendra nous parler ici même en avril prochain. Ce qui caractérise la gymnasiarchie athénienne de type ancien, car c'est un terme qui existe depuis longtemps, avant toute réforme, c'est de fonctionner dans le cadre du système des tribus. En effet, chaque année était désigné au sein des 10 tribus de l'État athénien, mais sous le contrôle d'un des principaux magistrats de la cité, celui qu'on appelle l'archonte roi, en fait le roi Basileus, vieille magistrature, un gymnasiarchos, donc 10 en fait, puisqu'il y en avait un par tribu, dont la tâche la plus visible était d'organiser la grande lampadédromie, la course au flambeau des Panathénées, qui se disputait précisément dans le cadre des 10 phylaïs, des 10 tribus. Dès le milieu du IIIe siècle, en revanche, on constate en divers documents que le gymnasiarque est un magistrat unique, élu à main levée, par l'ensemble du démos, et qui émarge au budget de la cité comme tous les autres détenteurs de l'archai. Donc un véritable magistrat gymnasiarchos. Un changement assez radical s'est donc produit dans l'intervalle. Il pourrait, de prime abord, être tentant de faire de cette réforme un simple volet de la réforme éphébique que l'on a évoquée précédemment. Cette réforme datable, on s'en souvient, de l'année 335-4. Mais Aristote, qui, dans la Constitution d'Athènes, décrit avec force détail le fonctionnement de l'éphébie, n'en souffle mot du gymnasiarque. Il n'en dit rien. On voit que chez lui, le responsable de la formation des éphèbes, au gymnase précisément, est le cosmètes, celui qui fait régner le bon ordre, cosmos, dans l'univers de ces jeunes gens turbulents. Rôle que confirment entièrement les inscriptions contemporaines. Cela invite donc à penser à une époque un peu postérieure pour l'introduction de la gymnasiarchie en tant que magistrature préposée à la direction générale des éphèbes et à la haute main sur les différents lieux d'exercice, c'est-à-dire sur les gymnases. De fait, dès 1912, un érudit allemand, Euler, avait suggéré d'attribuer cette réforme à l'époque de Démétrios de Phalère. Mais il n'avait guère été suivi, faute d'indices précis. Madame Culasso Gastaldi s'est employée à donner plus de consistance à cette idée quasi centenaire en reprenant l'examen de quelques inscriptions. D'abord, une dédicace des éphèbes de la tribu de la tribu Erectéide, dans un document de Ramnonte, qui sont vainqueurs à une lampadédromie, justement, une course de flambeaux, un document qui a été complété en 1979 par un nouveau fragment ici, permettant de mieux voir que les gymnasiarques, deux gymnasiarques, s'occupaient justement des éphèbes, éphébon, gymnasiarkoi. Et on voit par la suite qu'ils sont deux. C'est donc, on n'est pas encore dans le système de la gymnasiarchie unique, magistrat. Ce sont deux gymnasiarques qui œuvrent dans le cadre de la tribu Erectéis en particulier. S'ils sont deux, c'est peut-être parce qu'ils collaborent pour supporter les frais de cette charge, comme la collaboration était très bien attestée pour les triérarques. On a des sun-triérarkoi, on aurait en quelque sorte des sun-gymnasiarkoi. Ce document atteste donc qu'à la date de 332, on est encore dans l'ancien système. Je passe sur une autre inscription pour examiner un texte où il en va tout différemment. C'est un fragment, malheureusement, un fragment attique d'un très grand décret, mais dont il ne nous reste plus que cinq couronnes, morceaux qui devaient se raccorder à une stèle honorifique. Mais on voit, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que parmi les couronnes, l'une d'elles, attribuée par le démos d'Athènes, honore le personnage en tant que gymnasiarque, probablement unique, comme il a pu être stratège ou hipparque. Le malheur, c'est que ce gymnasiarque, qui fut sans doute un grand personnage, demeure pour le moment dans l'anonymat le plus total. Et sa datation reste incertaine. Car le seul élément chronologique, c'est peut-être au démos, ici, le démos o en imbro, qui suppose donc que les Athéniens sont encore maîtres d'Imbrose, cette île qu'ils ont perdue en fait à partir de 318, en la récupérant que plus tard. Et finalement, c'est un indice que l'on ne peut pas, sur lequel on ne peut pas s'appuyer de manière totalement rigoureuse pour dater l'inscription vers 318-315. Force est donc de reconnaître qu'il y a encore un certain flou, sfumato, dans la connaissance que nous avons actuellement du passage de l'ancienne à la nouvelle gymnasiarchie. L'attribution ainsi à Démétrios de Phalère est possible, séduisante même à certains égards, mais elle deviendrait probable si l'on pouvait imputer à ce législateur la réforme en quelque sorte parallèle de la chorégie. Mais en a-t-on les moyens actuellement ? Pour mesurer l'importance de la chorégie dans l'Athènes classique, il convient de rappeler, en un mot, que toute représentation publique lors des cérémonies religieuses impliquant la participation de corps d'hommes ou d'enfants avait besoin d'un chorège pour l'organisation des chœurs. Non seulement les concours de tragédie, les comédies, ou Dionysia, ou l'Énéa, mais d'abord et surtout l'exécution de ce qu'on appelait le dithyrambe, ce chant choral, qui donnait lieu au Dionysie notamment, à un concours entre les tribus. Chaque choros, chaque chœur, supposait l'existence d'un chorégos, qui en assumait tous les frais. On a pu établir ainsi que vers 330, il devait y avoir chaque année plus de 40 chorèges à trouver parmi les citoyens les plus aisés, lesquels avaient à verser des sommes considérables, surtout s'il leur prenait fantaisie de vouloir, après un succès, consacrer un trépied de la victoire sur un monument commémoratif plus somptueux encore que ceux qui emplissaient déjà l'entrée du théâtre. Aussi, en arriva-t-on à ériger de véritables édifices, comme le célèbre monument de Lysicrate, la lanterne de Démosthène, comme on disait autrefois, qui date de 334. Vous l'avez sous les yeux, en plan tel qu'il est et tel qu'on peut le reconstituer à gauche. Que de telles constructions aient pu ébranler les patrimoines les plus solides? C'est Démétrios de Phalère lui-même qui le suggérait, puisqu'au dire de Plutarque, il tenait ce type de monument pour le cénotaphe, bon, qui n'étaient pourtant pas des monuments funéraires, comme le cénotaphe, cénotaphion, des défuntes maisonnées, des familles qui se ruinent à ériger de tels monuments. Il n'est donc pas arbitraire de lui attribuer une réforme au terme de laquelle la chorégie de type liturgique, reposant sur les épaules les plus riches, fut supprimée au profit d'une magistrature unique, la gonothésia, dont le titulaire, agonothète, eut désormais la responsabilité d'organiser l'ensemble des concours choraux aux frais de la cité. Au surplus, la chronologie des monuments conservés est globalement favorable à cette attribution, car les deux plus récentes inscriptions chorégiques de type traditionnel, c'est celle-ci qui date de 319, Nicias, celle-ci aussi de la même année 319, Arconta de Neikmos, Trasulos, et dans le cas de Trasulos, on conserve même le monument au pied de l'Acropole, c'est une de ces deux grandes colonnes votives, la première ici, donc de témoignages très consistants de l'existence encore en 319, de tels monuments élevés par des corrèges particuliers. Inversement, le premier document qui atteste l'existence d'une chorégie d'un nouveau type, où désormais c'est le peuple tout entier qui est chorège, au demos et choregei, la restitution est certaine, sous la gonothète sous la gonotheta de Xénoclès de Sphétos, ou de son frère, peu importe ici, date de 307. Donc, entre 319 et 307, s'est produit quelque chose, on n'y échappe pas à cette conclusion. Et la plupart des critiques admettent assez naturellement que Démétrios fut bel et bien l'auteur de cette importante réforme qui serait assez comparable à celle qui mit fin au grand monument funéraire. Mais il me faut signaler pour finir une opinion divergente, voire paradoxale, qui suscitera certainement la discussion parmi les spécialistes, car elle émane de deux savants fort connus par leurs travaux sur le théâtre et les institutions théâtrales attiques. En effet, dans une communication faite fin 2008, lors d'un colloque sur le thème de l'argent des concours, dont les actes vont paraître incessamment, M. Eric Xapo et Peter Wilson, fort connus encore une fois l'un et l'autre, ont défendu l'idée tout à fait originale que le passage de la chorégie à l'agonothésie ne serait pas produit du jour au lendemain par l'effet de quelques lois attribuables à notre président philosophe, mais aurait été un processus ayant duré plus de 10 ans, puisqu'il faudrait en chercher l'amorce dès le premier intermède démocratique de 318, donc au lendemain de la condamnation à mort de Phocion et de la fuite de Démétrios de Phalère, tandis que la substitution définitive de l'agonothésie à la chorégie de type ancien se serait produite qu'en 307, au seuil de l'ère nouvelle marquée par l'arrivée du prince Démétrios Polyurcète. Autrement dit, et c'est là qu'incontestablement Et le paradoxe, Démétrios de Phalère ne serait pour rien dans cette réforme, en dépit de sa méfiance affichée à l'égard des aristocrates arrogants et dispendieux. Deux inscriptions sont invoquées à l'appui de cette hypothétique reconstitution, comme leur avance. Je ne vais pas les commenter ici, en signalant simplement que l'interprétation que ces deux savants tirent de l'une et l'autre inscription, un décret d'Aixoné d'une part, un décret d'Udème d'Acarne d'autre part, je suis conscient de passer trop vite, ne me paraît pas au bout du compte acceptable, et que, à tout prendre, l'idée est développée dans un livre extrêmement récent de Madame O'Sullivan, 2009, sur Démétrios de Phalère, dont je n'ai pris connaissance que tout récemment. Cette idée me semble plus attrayante, car selon cette chercheuse, Démétrios n'aurait pas, en fait, supprimé la chorégie, mais aurait empêché la construction de grands monuments chorégiques, tout en maintenant l'institution elle-même telle qu'elle existait autrefois. Et c'est pourquoi on n'aurait aucune trace, dans les années 317 à 307, aucune trace de monuments chorégiques. Mais en 307, dans l'euphorie de la libération, on aurait alors décidé de transférer la chorégie au démos, c'est l'inscription que vous avez vue de 307, d'où justement, sur l'entrée monumentale du théâtre de Dionysos, cette fière inscription mentionnant Xénoclès de Tphétos en tant qu'agonothète et non plus comme chorège. De toute façon, cette inscription appartient à une nouvelle phase de l'histoire athénienne, l'époque du roi Démétrios Poliorcète, dont on traitera dans la prochaine leçon. Je vous remercie.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.